vivir hasta Mirana.
Bonjour ou bonsoir, selon votre position géographique, c'est le moment de suivre la rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine. À la présentation, Josephine Johnson-Ndemana, tout de suite et les détails. Le 13 octobre 1961, 13 octobre 2022, cela fait 61 ans jour pour jour que le prince Louis Gogasole a été assassiné. Une triste journée que les Burundais commémorent chaque année. De son héritage, il y a surtout l'inoubliable discours du prince Louis Gogasole de 1961 qui reste plus que jamais d'actualité. Il a prononcé à l'issue de la victoire du parti UPRONA lors des toutes premières élections au Burundi. Pour lui, la victoire revenait à tous les Burundais. Le vainqueur devrait diriger équitablement tous les citoyens pour le bien de tout le monde. On l'écoute.
Aujourd'hui, l'UPRONA a gagné parce que vous l'avez voulu. Le parti va d'ailleurs mettre en place le gouvernement burundais. Mais dans cette élection, le vainqueur et le vaincu sont tous des Burundais. Ils sont du même royaume et ont le même roi. Même s'ils ne sont pas du même parti, le Burundi a besoin de tout le monde. C'est pour cette raison, chers amis, que la victoire d'aujourd'hui n'est pas une victoire du parti. Aujourd'hui, c'est la paix qui a gagné. C'est la dignité et la sérénité du Burundi qui ont gagné. Parce que là où il n'y a pas un bon leadership, il n'y a pas de développement. Ce qu'il a remporté encore aujourd'hui, c'est la vraie démocratie. La démocratie telle que comprise et souhaitée par les Burundais. Et vous savez, bien que ce que les Burundais souhaitent, c'est la vraie justice.
Une messe a été célébrée à la cathédrale Regina Mundi à l'occasion de ce triste anniversaire. Et dans son homélie, l'évêque du diocèse de Bujumbura, Mgr Gervais Vanshimiyurusa, a appelé les dirigeants à suivre l'exemple de Gwagasole qui mettait en avant l'unité des Burundais. Les autorités du pays devraient bannir à jamais les divisions de toutes sortes, mais plutôt de briller par le travail. Suivez Mgr Gervais Vanshimiyurusa.
Quand nous pensons à d'autres personnes qui ont vécu dans le passé, il nous est très facile surtout de les critiquer et de les juger sur la manière dont ils ont travaillé dans le passé. Nous nous rendons compte qu'ils ont failli à leur mission et en vérité c'est vrai. Mais là alors, faisons un regard rétrospectif et posons-nous la question. Et c'est là où la parole de Dieu veut nous amener. Posons-nous donc la question. En quoi nous renseigne ce qui s'est passé? Ça nous aide vraiment à ne pas tomber dans le même piège qu'eux. Si Jésus revenait aujourd'hui, il risque de nous qualifier de ces gens qui ont vécu la période de Gwagasole. N'y a-t-il pas des gens semblables à Gwagasole que nous continuons à malmener? Ou alors, dont on ignore les projets de société, en les écartant même, croyant qu'on est en train de défricher les mauvaises herbes pour se créer un chemin de passage? Gwagasole, comme certains de ses semblables, ne cherchait pas à exploiter les autres. Gwagasole ne distribuait pas des biens à gauche, à droite. Gwagasole éclairait les gens en leur montrant qu'ils ont des bras et capables de travailler et de se prendre en charge. Dieu vous a donné de l'intelligence et vous avez de la place où travailler. Mettez-vous ensemble et travaillez. Quand tu cherches quelque chose par toi-même, ça te rend vraiment heureux plus que ce qu'on te donne, même si des fois, tu remercies la personne qui t'est venue en aide. Mais c'est très différent. Gwagasole estimait que les gens étaient dans la dignité quand ils vivaient de leur sueur.
Poursuivons cette rétrospective de l'actualité sur le chapitre des droits de l'homme, où le président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples demande au gouvernement burundais de garantir la protection des 12 défenseurs burundais des droits de l'homme en exil et condamnés dans l'affaire de tentative de putsch du 13 mai 2015. C'est le contenu d'une lettre envoyée au président et chef de l'État Évariste Ndayishimiye par le président de cette commission africaine qui a son siège à Banjul en Gambie. Le commissaire Emingo Ilumbu a écrit cette lettre à la veille d'une session prévue ce mois d'octobre. Le dossier de ces défenseurs des droits de l'homme burundais sera au rendez-vous. On fait le point avec Evelyne Mukeshimana.
Dans cette lettre datée du 29 septembre dernier,
le président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples écrit au président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, pour lui demander de prendre des mesures conservatoires nécessaires en faveur des 12 défenseurs des droits de l'homme burundais condamnés arbitrairement dans le dossier du putsch du 13 mai 2015, de leurs familles et de leurs avocats. Le commissaire Rémy Ngoï Lumbu explique que la Commission a admis sur son rôle la communication introduite par l'organisation Defender Defenders qui s'occupe de la protection des défenseurs des droits humains dans la région est-africaine et de la Corne d'Afrique, la dite communication concernant le putsch qui a impliqué les 12 hommes et femmes, journalistes et acteurs de la société civile. Ils ont tous été jugés sans être entendus. La lettre de la Commission africaine des droits de l'homme a aussi précisé que tant le souci de garantir un procès équitable, les émissaires et avocats de ces 12 personnes n'ont pas eu l'autorisation du gouvernement burundais. Le président de la CADHP rappelle en effet que dans son règlement intérieur de 2020 relatif aux mesures conservatoires, la Commission requiert à l'État défendeur, en 15 jours, un rapport sur la mise en œuvre des mesures conservatoires demandées. La semaine prochaine sera donc le rendez-vous pour le gouvernement du Burundi de donner son rapport au sujet de cette plainte de 12 défenseurs burundais des droits humains à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Leur point commun est de s'être opposé au troisième mandat inconstitutionnel de feu président Pierre Nkurunziza, un troisième mandat qui violait aussi l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation du peuple burundais.
Toujours au chapitre des droits de l'homme, les réfugiés burundais qui sont en Tanzanie doivent regagner leur pays. L'annonce a été faite par le ministre tanzanien de l'Intérieur lors du 23e sommet des Nations Unies qui s'est tenu depuis ce mardi à Genève, en Suisse, et qui s'est clôturé le vendredi. Il a précisé que c'est un consensus qui a été dégagé entre trois parties, le Burundi, la Tanzanie et la représentation du SAR en Tanzanie. La coalition des défenseurs des droits de l'homme et des réfugiés vivant dans des camps de réfugiés, CBDH Vicar, trouve qu'il n'est pas encore temps que les réfugiés burundais rentrent par force, car les violations des droits humains continuent au Burundi. On fait le point avec Pierre Garungu.
Le ministre Ramadan Massaouli a précisé lors du sommet que le Burundi, la Tanzanie et le HCR s'accordent sur le rapatriement des réfugiés burundais qui sont en Tanzanie. L'occasion lui a été donnée d'expliquer à l'opinion internationale les motivations du processus. Écoutez le ministre Massaouli.
Les réfugiés qui sont à Kiruma doivent regagner leur pays. L'opinion internationale est au courant. À vrai dire, le processus de rapatriement de ces réfugiés burundais a été consenti entre trois parties, à savoir le Burundi, la Tanzanie et le HCR.
Les propos du ministre tanzanien de l'Intérieur sont réfutés par la coalition des associations qui défendent les droits de l'homme et des réfugiés vivant dans les camps. Léopold Chalangabo, vice-président de la CBDH FICAR, trouve qu'il y a des contradictions entre ce qu'il dit et la réalité sur terrain. Il demande au HCR de continuer à aider les réfugiés burundais qui sont en Tanzanie. Léopold Chalangabo.
Le discours du ministre tanzanien de l'Intérieur est un discours plein de contradictions. Par exemple, il a suggéré que les Burundais ont besoin d'être aidés pour que la situation dans son pays puisse changer. Pendant qu'en Tanzanie, son ministère qui est en charge de réfugiés a souvent malmené les Burundais, en les contraignant de rentrer. Je ne parle pas des actes de violation de toutes sortes. En disant que tout va bien au Burundi. Il a aussi demandé une aide à la communauté internationale pour le rapatriement volontaire. En d'autres termes, il a confirmé que les réfugiés burundais ne rentrent pas à leur volonté. Mais c'est faux, parce que les autorités de ce ministère, en collaboration avec la police tanzanienne, redonnent souvent les réfugiés burundais de rentrer. Et ils embarquent souvent forcément les réfugiés burundais. C'est la raison pour laquelle nous demandons d'abord au gouvernement tanzanien de laisser le choix de rentrer aux réfugiés burundais. S'il trouve qu'il n'est pas en mesure de continuer à sécuriser les réfugiés burundais, il a le droit de demander le transfert de ces réfugiés dans d'autres pays qui en sont capables. Nous demandons aux Nations Unies, par le biais de ceux du HCR, de continuer à soutenir les réfugiés burundais.
Rappelons que depuis 2015, les réfugiés burundais qui sont en Tanzanie ont subi plusieurs sortes de maltraitances avec l'objectif de les pousser à rentrer. Des associations de défenseurs des droits des réfugiés n'ont cessé de dénoncer des cas d'assassinat, d'enlèvement et d'emprisonnement. Des rapatriements forcés sont aussi signalés par ces organisations.
Au chapitre de la justice, plus de 60 militaires de l'armée burundaise et des sous-officiers pour la plupart sont en garde à vue dans les cachots du bataillon police militaire à Bujumbura. Ils sont poursuivis pour détournement d'une importante somme d'argent au bureau central de traitement de l'état-major général de l'armée. Ils ont été arrêtés sous ordre de l'auditorat militaire. Jean-Marie Ndamachins.
Ces militaires ont été arrêtés depuis jeudi de la semaine passée, ceux qui sont en garde à vue dans les cachots du bataillon police militaire dépassent légèrement le nombre de 60. Ils ont été arrêtés sur ordre de l'auditorat militaire qui est en train d'enquêter sur le vol d'une somme importante d'argent au sein du bureau général du traitement, ancienne direction centrale de traitement des CT. Les militaires concernés sont généralement des sous-officiers qui ne perçoivent pas leur salaire à la coopérative d'épargne et de crédit pour l'autodéveloppement des militaires CADEM. Les informations que nous détenons des sources auprès de l'auditorat militaire et au sein du bataillon police militaire indiquent qu'au niveau du bureau de traitement, il y a eu vol d'une somme estimée à des milliards de francs burundais. Les mêmes sources indiquent que ce vol a été organisé d'une façon inhabituelle. Certains militaires de ce département qui sont chargés de faire des opérations bancaires pour acheminer les salaires des militaires sur leurs comptes respectifs ont pris l'initiative d'opérer des versements bancaires sur des comptes des militaires qui ne sont pas domiciliés à la coopérative d'épargne et de crédit pour l'autodéveloppement des militaires CADEM. Après l'opération, ils contactaient le militaire concerné, qu'un particulier qui devait les rembourser une dette a voulu verser l'argent via la banque où ils n'ont pas de compte, ont vu qu'il fallait passer par vous pour avoir cette somme. Ils vous demandaient en plus d'aller faire le retrait et de leur donner la somme moyennant certains avantages de ce service, continuent les mêmes sources. Les mêmes sources indiquent en outre que ce circuit a été démasqué lorsqu'un militaire a eu sur son compte une somme de 400 millions de francs burundais. Quand il est allé à la banque pour le retrait, les agents de la banque lui ont dit que le retrait de cette somme doit avoir une délogation ou permission de la banque centrale. La banque centrale a alors initié des enquêtes pour trouver l'origine de cet argent. Pour le moment, des sources militaires indiquent que les bureaux des sous-officiers du bureau central de traitement sont fermés parce que les militaires qui travaillaient sont en détention dans les cachots du bataillon police militaire. Même l'officier qui dirige ce département serait déjà dans le collimateur de ce vol, bien qu'il n'ait pas encore été arrêté. À la rédaction de la radio Inzamba, Agathe Kakawe, nous avons essayé de contacter par téléphone le colonel Floribert Vieleke, porte-parole de l'armée, pour éclairer l'opinion sur ses arrestations pour l'enquête de ce vol à l'état-major général de l'armée burundaise, mais sans succès.
C'est une avancée positive que l'armée burundaise ait ouvert une enquête sur ce détournement des fonds au bureau de l'état-major de l'armée. C'est du moins ce qu'indique l'ancien officier de l'armée et analyste dans ce secteur, Gratien Lukindikiza, qui explique que le bureau de traitement des salaires, qui est informatisé, doit être soumis à un audit de la gestion des fonds de l'armée. On écoute Gratien Lukindikiza.
Je pense que c'est la première fois qu'il y ait un détournement de telle ampleur, mais c'était pas du tout prévisible parce qu'à l'armée, il y a un bureau des traitements qui est informatisé, complètement informatisé. Donc, pour faire un stratagème, arriver à détourner tel montant, il faut faire en sorte qu'on rentre des gens qui sont sortis de l'armée ou qui sont morts ou qui sont emprisonnés, tout ce qu'on veut. On crée un fichier des salariés, du personnel, des militaires qui sont payés. Et je pense que c'est pas une affaire de toute l'armée, c'est pas une affaire de toute l'hierarchie des chefs, mais c'est une affaire de quelques-uns. Parce que si c'était pour tout le monde, ils seraient pas inquiétés. Je dirais que les Burundais, surtout au niveau de l'armée, essaient de suivre l'exemple du Congo. C'est au Congo, on avait annoncé au président qu'il y avait 20 000 militaires qui combattaient le M23. Et donc, du coup, il y avait l'argent pour les 20 000 militaires, il y avait l'équipement pour les 20 000 militaires. Mais quand il a fait la tournée, il s'est rendu compte qu'en fait, il y avait 5 000 militaires qui combattaient. Donc, de ce fait, il y avait un détournement. Il a limogé le chef d'état-major. On l'a vu tout récemment. Donc, au Burundi, ce détournement, ça implique bien sûr les chefs, parce que les chefs n'ont pas contrôlé, mais on pourrait se demander réellement s'il n'y a pas une nécessité d'avoir un audit de la gestion de l'armée, notamment la gestion même de l'argent de la MISOM, pour qu'il y ait plus ce genre de détournement. Un bon point, c'est que finalement, ils ont accepté, ils ont arrêté ces gens-là, ils n'ont pas été couverts comme ça se faisait de temps en temps. C'est une bonne chose, pourvu que ça continue ainsi.
Voilà, madame, messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine écoulée. Passez un bon dimanche chez vous.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.